La vie d'Avidanta.
Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente notre journal hebdomadaire de la vie quotidienne. Et un grand merci à Alex qui est à la prise de son et au mixage, ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Saint-Afrique, la radio libre, joyeuse et indépendante. J'adore ce slogan. Au sommaire de cette semaine, nous allons parler des problèmes de poids, de surpoids, et même s'il existe des prédispositions familiales au surpoids, elles sont souvent associées à une alimentation inadaptée qui, elle, peut être modifiée. Et puis, dans la rubrique de « Ces aliments qui nous soignent », nous aborderons la laitue. En Provence, on dit « manger salade, jamais malade ». Et nous terminerons l'émission par la lecture d'un conte zen. Mais tout de suite, passons au thème principal. Pourquoi aucun régime amaigrissant n'est efficace durablement? La réponse est simple. Les régimes ont un début et une fin, génèrent beaucoup de frustration et très souvent affament. Ils sont donc difficiles à suivre, favorisent les déficits nutritionnels et peuvent même se révéler dangereux. Et puis, avez-vous vraiment besoin de perdre du poids? Avant de chercher à maigrir, il est essentiel de rationaliser l'importance de votre surpoids. Et savez-vous comment déterminer votre poids de santé? Je dirais tout d'abord qu'il n'existe pas de poids idéal. Cependant, le seul critère en diététique conventionnelle qui établit un poids de santé est fondé sur l'indice de masse corporelle, ou l'IMC. Les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes malades, les grands sportifs, les adolescents et les seniors ne doivent pas se référer à cette mesure. Pour un adulte entre 20 et 65 ans, les normes d'indice d'IMC sont comprises entre 18,5 et 24,9. En dessous, c'est la maigreur, et en dessus, c'est le surpoids. Et au-delà de 30, on parle même d'obésité. Et enfin, à partir d'un IMC à 35, c'est une obésité grave. Mais alors, comment on calcule l'IMC ? C'est un rapport entre le poids et la taille au carré, et c'est défini comme un poids souhaitable. Donc par exemple, si vous pesez 58 kg et mesurez 1m65, on va diviser 58 par 1m65 au carré pour trouver votre indice de masse corporelle. Le résultat est donc de 21,32. On voit bien que ce rapport indique que vous n'êtes pas en surpoids puisque vous êtes dans la fourchette de 18,5 à 24,9. Mais si votre IMC est inférieur à 18,5 et si vous mangez normalement, n'ayez pas d'inquiétude car vous avez sans doute un très bon métabolisme. En revanche, si vous vous restreignez par peur de grossir, sachez que vos apports nutritionnels sont insuffisants. Mangez davantage tout en privilégiant la qualité de vos repas. Une chose est sûre, maigrir alors que ce n'est pas nécessaire n'est pas recommandé, car cela engendre de la fatigue, un déséquilibre nutritionnel et une reprise de poids rapide dès que le corps en a l'occasion. Cette mesure est facile à faire. Elle est utile, mais pas toujours fiable, car si vous êtes très ou trop musclé, l'IMC sera un critère peu pertinent. Une autre mesure pourra davantage vous informer. C'est le pourcentage de graisse corporelle qui sera un critère plus fiable. Mais il est moins facile à mesurer car il nécessite un appareil spécial, un impédancémètre. Donc tournez-vous vers un professionnel de santé qui en est équipé. Chez les femmes, le pourcentage de graisse corporelle devrait être inférieur à 25% et ne pas dépasser les 31%. Et celui des hommes devrait être inférieur à 18% et ne pas dépasser les 24%. Un autre critère qu'il faut observer, c'est de regarder l'évolution de son poids. Si vous mesurez votre poids à l'instant T, cela ne nous permettra pas de mesurer correctement le problème de surpoids. Une personne dont l'IMC est inférieur à 25, mais qui a pris plusieurs kilos en quelques mois, doit s'inquiéter davantage qu'une personne en surpoids avec un poids stable. Une prise de 2% de masse de graisse par décennie est considérée comme acceptable. Le surpoids, et a fortiori l'obésité, sont des troubles multifactoriels. Certains de ces facteurs sont hors de votre contrôle. On sait par exemple que le risque de surpoids ou d'obésité est augmenté si vous étiez un bébé de plus de 4 kg ou de moins de 2,6 kg à la naissance, ou que vous êtes né par césarienne, ou que vous n'avez pas été allaité, ou encore que vous avez reçu des cures d'antibiotiques durant votre petite enfance, ou que vous avez reçu trop de protéines et trop peu de graisse, surtout avant 2 ans. Dans la très grande majorité des cas, les problèmes de surpoids sont la conséquence de mauvais comportements par simple méconnaissance du sujet. Mais voyons les erreurs qui nous empêchent de perdre du poids. Êtes-vous du genre à compter les calories de vos aliments? Le problème ne vient pas des calories, mais des calories vides. On parle de calories vides pour définir les aliments riches en calories et faibles en nutriments. C'est le cas notamment des céréales raffinées. Et si vous manquez de nutriments, votre corps vous en réclamera en vous faisant manger plus. Voyons les carences en nutriments qui vous font trop manger. Par exemple, une carence en fer va provoquer de la fatigue, une résistance à l'amincissement et une augmentation de l'appétit. Une carence en zinc va engendrer une insulinorésistance et de la perte de goût. Et une carence en magnésium. Elle va augmenter le stress, qui est aussi une cause de prise de poids, et provoquera une mauvaise régulation de la glycémie qui engendrera un métabolisme ralenti. Une carence en iode donnera une difficulté à synthétiser les hormones thyroïdiennes qui, elles, chapeautent toutes nos hormones et nos métabolismes, ce qui entraîne une prise de poids. Et enfin, des carences des vitamines du groupe B ralentissent aussi le métabolisme qui va moins brûler nos calories. Si vous consommez des aliments raffinés, tels que les sucres blancs et les céréales raffinées, ils sont hyperglycémiants, ce qui stimule excessivement la production d'insuline, une hormone qui permet le stockage des graisses. Vous fuyez le gras et vos apports en oméga 6 et oméga 3 sont déséquilibrés. Sachez que l'excès d'oméga 6 favorise la multiplication des cellules graisseuses. Or, on constate qu'en majorité, la population consomme 15 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, alors que le rapport devrait être de 2. En revanche, les oméga 3 favorisent la perte et le maintien du poids. Retenons donc que les oméga 3 sont du gras qui fait maigrir. Mais où et dans quoi trouve-t-on des oméga 3 ? Surtout dans les huiles crues de colza, de chanvre, de lin, de cameline et de noix, et tout ce qui est petits poissons bleus, sardines, maquereaux, harengs, anchois, tandis que les oméga 6 se trouvent plutôt dans les huiles de tournesol, d'arachide, de pépins de raisin, de maïs et d'aliments transformés. Une autre question à se poser, c'est: est-ce que mon alimentation contient trop souvent des additifs, des colorants, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des édulcorants? Car ces molécules chimiques perturbent votre métabolisme et votre microbiote. Par exemple, ces aliments light à base d'édulcorants, tels que l'aspartame, le sucralose, sont capables, sans apporter de calories, d'entraîner une résistance à l'insuline et une prise de poids en modifiant votre microbiote. Est-ce que votre alimentation est pauvre en fibres? Les fibres rassasient, elles régulent la glycémie et favorisent un bon transit. Elles nourrissent le microbiote et stimulent la fabrication d'acides gras à chaîne courte. Ces derniers sont de très nombreux atouts santé, notamment anti-inflammatoires, et favorisent la satiété. Et au niveau du sel, comment mangez-vous? Savez-vous que l'excès de sodium facilite et accélère l'absorption du glucose, donc des sucres, ce qui favorise la prise de poids? De nombreux aliments contiennent des sels cachés, ou non d'ailleurs, tels que le pain, la sauce de soja, le fromage, les produits transformés, les plats préparés, les céréales du petit déjeuner, les chips et les biscuits apéritifs. Et enfin, la consommation d'alcool stimule le stockage des graisses et ralentit le déstockage. Outre l'alimentation, certains facteurs sont propices à la prise de poids. C'est là que l'on reparle du stress, de la sédentarité, du rythme des repas et du manque de sommeil. Les personnes, par exemple, qui ont des horaires décalés, sont souvent sujettes à des prises de poids quand elles adoptent leurs nouveaux horaires de travail. Par exemple, les animateurs radio, qui commencent vraiment très tôt, peuvent avoir du mal à trouver le rythme alimentaire. C'est pas le cas d'Alex, hein. Parce que leur journée se retrouve totalement perturbée. Un réveil dans la nuit avec un petit déjeuner, puis une collation dans la matinée, puis un déjeuner souvent décalé vers 15h, un dîner suivi d'une courte nuit. Ces paramètres des horaires de leur prise alimentaire sont déréglés. Et il faut du temps pour que le corps s'adapte à ce nouveau rythme. C'est aussi le cas de toutes les personnes qui travaillent la nuit, et plus encore, des personnes aux horaires irréguliers, comme le personnel soignant des hôpitaux, qui alterne travail en journée et travail de nuit. Quand il y a un déficit en sommeil, la sécrétion des hormones du sommeil est altérée, ce qui entraîne une augmentation de la prise alimentaire. Plusieurs hormones sont impliquées dans cette prise de poids. Et oui, encore elles. Il y a la leptine, qui augmente la satiété, et la gréline, qui augmente la sensation de faim, toutes deux fabriquées dans l'appareil digestif. En général, on sécrète la leptine la nuit, pendant qu'on dort, et la gréline dans la journée. Et en cas de changement de rythme, ces sécrétions sont décalées et il peut se passer l'inverse de ce qui est programmé dans l'organisme. Et les autres hormones fonctionnent également selon un rythme nuit-jour, qui dépend de l'ensoleillement et de l'exposition à la lumière. Si cette exposition ne se fait pas au lever du jour, c'est souvent le moment où les personnes qui travaillent la nuit vont se coucher. Il y a une augmentation du coup de la sécrétion de cortisol à un moment où il est plus facile de stocker de la graisse, car le cortisol augmente cette capacité-là. Voici une suggestion de repas équilibré sur une journée. On va appeler ça votre journée diététique idéale. Ensuite, à vous de faire preuve de créativité pour varier vos repas en tenant compte des conseils précédents. Alors, pour le petit déjeuner, vous pouvez prendre 2 tranches de pain complet au levain et dessus faire une garniture protéinée, c'est-à-dire avec de l'œuf, un œuf mollet par exemple, ou du jambon, ou du hummus, ou de la rillette de poisson gras, tout ça parsemé de graines germées. À cela, vous ajouterez une source de bonne graisse, c'est-à-dire un quart d'avocat mûr, ou un filet d'huile d'olive, ou de colza, ou encore de la tapenade d'olive. Et en boisson, vous pourrez prendre du thé vert ou du thé noir de qualité, de la tisane ou du café, mais pas de lait ni de sucre. Pour le déjeuner, commencez par une salade, des crudités ou un potage de légumes. Le plat principal sera composé de 2 légumes de couleurs différentes, et ça doit prendre la moitié de l'assiette. Un morceau de poisson ou de volaille, ou de viande maigre, ou de tofu, ou encore des légumineuses comme les lentilles, les pois cassés, les pois chiches ou les fèves, ainsi que les haricots secs, se prendra le quart de l'assiette. Et une portion de féculents pour le dernier quart de l'assiette, cela peut être du quinoa, du riz basmati complet, ou du sarrasin, ou du boulgour. Si vous n'avez pas choisi les légumineuses comme apport en protéines, vous pouvez les mettre comme dernier quart à la place des féculents, ou bien compléter avec du pain complet. Faites-vous une belle assiette qui donne envie, colorée et gourmande. Pour la collation, qui n'est bien entendu pas obligatoire, prenez un yaourt de soja ou de brebis ou de chèvre ou de vache même de temps en temps, une petite poignée d'oléagineux, un fruit frais et un carré de chocolat à 80% de cacao. Le dîner sera plutôt léger et consommé tôt, avec une entrée du genre potage de légumes ou crudités ou salade, un plat léger à base de légumes colorés, d'une petite portion de légumineuse ou de féculent et d'un petit morceau de poisson gras, sardine ou maquereau ou hareng ou des fruits de mer ou encore du soja sous forme de tofu. Le tout arrosé d'une cuillère à soupe d'huile de colza et pas de dessert, on reste sur le plat salé. Vous pourrez vous faire une infusion de verveine, par exemple, après le repas ou plus tard dans la soirée. Pour la composition de ces repas, je recommande des produits de qualité, bio, de préférence. Au-delà de la diététique, une autre aide intéressante sera l'inuline, car elle contribue à une saine gestion du poids. L'inuline est une fibre naturelle présente dans une variété de végétaux tels que la chicorée, l'agave, l'ail, l'asperge, l'artichaut ou le topinambour. Et si vous consommez déjà ces produits, alors l'inuline fait déjà partie de votre programme nutritionnel habituel. Aussi, l'inuline est une fibre prébiotique qui permet aux bonnes bactéries de se développer dans la flore intestinale. Ces bactéries ont un rôle important dans la capacité de produire les hormones liées à l'appétit, qui sont la leptine et la gréline. Elle a la caractéristique de ne pas pouvoir être décomposée ni absorbée par le système digestif. Elle traverse donc le système digestif et arrive encore complète dans les intestins. Et c'est là qu'elle va agir comme prébiotique en nourrissant et en augmentant le nombre de bonnes bactéries dans votre système digestif. De plus, les fibres, d'une façon générale, ont un effet favorable sur la satiété, car l'inuline contribue donc à l'atteinte de la sensation de satiété plus rapidement grâce à sa forte teneur en fibres. Enfin, comme celle-ci ralentit la digestion, elle empêche le sucre d'être libéré trop rapidement dans notre corps. Or, ce sont ces pics de sucre qui sont responsables de notre faim rapide et qui contribuent à l'accumulation des graisses. Avec ces informations, cela vous sera-t-il plus facile de retrouver votre poids idéal et de ne pas perdre de vue que le poids ne doit surtout pas devenir une obsession. Merci à Véronique Liez, Natacha Lagarose et Jean-Michel Cohen pour leurs recherches. Dans la rubrique de ces aliments qui nous soignent, je vous parle aujourd'hui de la laitue, Lactuca sativa. La laitue est originaire de l'Est de la Méditerranée et de l'Asie occidentale. Elle fut cultivée pour la première fois il y a 4500 ans. Elle était consommée par les Perses, les Grecs et les Romains. Son nom latin, Lactuca, vient du latin lac, qui signifie lait, car un liquide laiteux sort de ses tiges quand elles sont coupées. Au Moyen Âge, elle était considérée comme un anaphrodisiaque, raison pour laquelle on l'a donnée aux moines pour contrôler leur libido afin qu'ils puissent remplir leurs vœux de chasteté. C'est lors d'un voyage aux Caraïbes que Christophe Colomb aurait introduit des graines de laitue dans cette région du monde. La laitue contient beaucoup d'eau, environ 95%, peu de glucides et très peu de lipides. C'est l'un des aliments les plus hypocaloriques. Si les lipides de la laitue sont peu nombreux, ils sont par ailleurs d'excellente qualité. En effet, ils sont majoritairement constitués d'acides gras polyinsaturés, ce qui prévient les maladies cardiovasculaires. Plus elle est verte, mieux elle est pourvue en nutriments. Elle renferme des vitamines C, B1, B2, B9, E et des bêta-carotènes. Elle contient une assez bonne quantité de minéraux et d'oligo-éléments. Et il est à noter que les feuilles les plus extérieures et les plus vertes sont les plus riches en bêta-carotène, en fer, en vitamine B9 et en vitamine C. La laitue est un aliment utilisé en Chine dans le cadre des régimes du diabète et de l'obésité. Certains nutritionnistes chinois considèrent la laitue comme étant un bon aliment pour la croissance de l'enfant. D'autres la préconisent en cas de cancer, principalement du foie et de l'estomac. La laitue accélère la disparition des effets secondaires d'un excès d'alcool. Voici une recette pour favoriser la lactation. Réduire en poudre fine des graines de laitue et des noix en quantité égale. Prendre 3 g de ce mélange le matin, le midi et le soir. On peut aussi favoriser la lactation en buvant le jus de 250 g de laitue matin et soir. Sous prétexte de favoriser la lactation, ne pas abuser de laitue crue en salade juste après l'accouchement. Et pour changer un peu, aujourd'hui, notre partage musical ne dévoilera pas une voix de femme, mais plutôt rendra hommage à une initiative portée par l'association Arbre. Le 5 avril 2019, la Déclaration des droits de l'arbre a été proclamée à l'Assemblée nationale. Après 2 ans de pandémie, l'événement étant classé sans suite, 2 groupes d'artistes musiciens, la Caravane Passe et Trio, ont décidé de chanter un hymne pour faire un maximum de bruit autour de cette manifestation. Écoutons « Droit comme un arbre ».
Debout les aînés de la terre, fait du même bois coiffé de verre. Des temps, des millénaires, les arbres nous soufflent cet air. Les arbres nous soufflent cet air. Fils de feuillus ou filles de lierre, qu'on soit tordu ou conifère, unissez-vous d'un tronc commun. Le droit des arbres et du terrien. Le droit des arbres et du terrien.
Ses frères soulève une forêt de soldats de bois qui rompt mais ne plie pas, dont les racines guident les pas. Sous les pavés, les marronniers, des saules frondeurs sous les palmiers, que les grands chênes se libèrent et que nos voix chantent cette terre. Les aînés de la terre.
Transition, pour aujourd'hui, je finirai cette émission en vous racontant un conte zen d'Henri Brunel. La Tsampa. C'est un conte humoristique d'origine tibétaine. À base d'orge grillée, la Tsampa est le plat traditionnel des Tibétains. L'orge réduite en farine, mêlée parfois de blé ou de pois, est détrempée, pétrie dans un thé beurré et salé. La Tsampa sert à tout. En tout lieu, le moine errant la mange dans son bol de bois avec ses doigts. Alors voici. Il était une fois de pauvres gens dont la masure côtoyait la belle demeure d'un riche propriétaire. Cette année-là, l'hiver était rude. Agabunda ne parvenait plus à nourrir les siens. le voisin recelait dans ses greniers des montagnes d'orge. Lui demander l'aumône, implorer sa pitié, démarche vaine. Le voisin ne donnait qu'à ceux qui pouvaient lui rendre. Il n'accorderait rien à un misérable. Alors un soir, Agabunda, désespéré, eut une idée. Il alluma un grand feu dans sa cour, un feu somptueux, qui brillait dans la nuit. Le riche voisin, intrigué, s'approcha. « Agabunda, veuillez me pardonner si je suis indiscret, mais que fais-tu brûler ainsi ?»« Oh !» répondit négligemment l'interpellé. « Un cousin qui rentrait aujourd'hui de la capitale m'apprend qu'en raison de l'hiver rigoureux, la tsampa atteint en ce moment des prix incroyables. Je fais cuire quelques kilos d'orge et j'irai les vendre à l'assa. » Le riche propriétaire revint chez lui tout songeur. Il décida de griller une belle quantité d'orge et de profiter lui aussi de l'aubaine. Quelques jours plus tard, Agabunda et son voisin prenaient la route de la capitale. Ils avaient résolu de voyager ensemble. S'ils étaient attaqués en chemin, se disait le riche propriétaire, Agabunda, sur son âne, placé en tête du convoi, recevrait les premiers coups. Agabunda avait disposé trois sacs remplis à bord de feuilles mortes sur son âne. Les voilà en route. Le yak du riche propriétaire portait lui sur son dos trois gros sacs gonflés de bonne farine d'orge grillée. En chemin, la nuit tomba. Ils dormirent dans un petit temple abandonné. L'endroit était misérable. Il ne restait dans un coin qu'une statue en bois de Bouddha dont le nez était rongé par l'humidité. Un peu avant l'aube, Agabunda se leva sans bruit. Il sortit les feuilles mortes de ses sacs et les donna à manger à son âne. Ensuite, il remplit ses sacs avec l'orge grillée de son compagnon. Et enfin, il déposa les sacs vides sur les bras du Bouddha en prenant soin de lui barbouiller la bouche et le visage de bonne farine. Le matin, quand il s'éveilla, le riche propriétaire constata le désastre. Il poussa des cris abominables. « ô voleur, ma bonne tsampa !» Imperturbable, Agabunda montra du doigt le Bouddha, la bouche encore barbouillée d'orge grillée. Shakyamuni, l'éveillé, devait avoir très faim, dit-il avec conviction. Pendant la nuit, il a dévoré toute votre tsampa. Il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne s'attaque à la mienne. Mais je ne veux pas vous laisser ainsi, partageons. Il donna un sac et la moitié d'un autre au riche propriétaire, qui accepta avec un sourire contraint et ne parla plus tout le reste du chemin. Que le riche prenne garde, dit le sage. S'il refuse de donner un peu de tsampa à son voisin, Bouddha la lui dérobera et la mangera. Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Saint-Afrique, dans la rubrique Les Hebdos, la Villa Vidanta. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h15. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. À d'ici.